Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez probablement, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien particulier. Comment fait-on de la sociologie et de la littérature des outils pour penser sa propre condition ? Être enfant d'immigré dans un processus d'ascension sociale expose à des violences symboliques qui s'expriment dès la scolarisation. La double conscience, décrite par le sociologue et historien W.E.B. Du Bois, s'inscrit ainsi dans une trajectoire à la fois intime et intellectuelle. Défier la honte sociale et corporelle, s'affirmer dans la complexité de son identité sans se renier, c'est le sujet de notre épisode du jour.
Pour en parler, nous recevons Kawtar Archi, enfin nous recevons à nouveau Kawtar Archi. Bonjour Kawtar.
Salut Kawtar.
Bonjour à vous.
Alors, on est vraiment ravis de t'avoir à nouveau au micro de Kif Taras. On peut t'entendre dans l'épisode 19 qui s'intitule « Littérature francophone, mot pour mot », donc mot M-O-T-S pour mot M-E-X. Tu es chercheur en sociologie. Ton dernier ouvrage s'appelle « Comme nous existons » qui vient de paraître aux éditions Actes Sud.
Alors Kawtar, tu es déjà venu, donc tu connais notre rituel. On demande à nos invités s'il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. Enfin, elle est toujours dans cette nouvelle saison.
Ça n'a pas changé.
Donc tu as déjà répondu et on te pose à nouveau la question pour les auditeurs qui ne t'auraient pas entendu et au cas où ça aurait changé. Par les temps qui courent, peut-être que je ne sais pas.
Non. Par les temps qui courent, il y a beaucoup de choses qui changent évidemment et qui évoluent. Mais pour ma part, c'est une chose qui n'a pas changé. Je suis toujours une femme arabe.
Alors Kawtar, tu viens de publier un récit autobiographique qui raconte le parcours d'une Française dont les parents sont originaires du Maroc dans les années notamment 1990. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette nécessité de formuler ce récit ?
Oui, effectivement, c'est un récit qui est en lien avec ma trajectoire littéraire. J'ai publié mon premier récit, premier roman, première fiction à l'âge de 20 ans. Et par la suite, j'en ai publié d'autres au nombre de 3 maintenant, 3 fictions. Et la particularité de ces fictions, c'est qu'en plus, 2 d'entre elles étaient portées par des voix masculines. Donc je crois que dès le départ, la question du rapport à ma propre identification, la manière dont les autres pouvaient m'identifier, le dispositif narratif, qui est un dispositif fictionnel, a posé des questions qui étaient pour moi des questions centrales, mais que j'avais plutôt tendance à éviter ou à ne pas vouloir affronter de manière justement frontale. Mais c'est une position difficile, c'est une position sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, sur laquelle aussi j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup exprimée sur le fait d'être effectivement une écrivaine et par ailleurs une femme racisée. Je ne dis pas écrivaine racisée, je tiens pour le coup vraiment à séparer les deux. Et je crois que je suis arrivée à un moment, une période aussi, la question elle est aussi à contextualiser par rapport à tout ce qui se passe en France depuis ces dernières années, où la question du jeu et la question du dispositif narratif commençait à me peser. Et j'avais surtout le sentiment que par rapport à la critique, une critique blanche, et par rapport à un certain lectorat, un lectorat blanc en particulier, le fait de lire mes livres tout en ayant à l'esprit que ce sont des romans pouvait leur offrir une forme de sortie de secours, comme si finalement ce que je racontais n'était politiquement pas si grave que ça. Car après tout, c'était toujours de l'imaginaire, c'était toujours quelque chose que j'avais inventé. Et cette dimension-là de l'invention, elle est politiquement devenue assez gênante pour moi. C'était réel, ce sont des violences objectives sur lesquelles on peut réfléchir et échanger. Et ce n'est pas simplement de la fiction, ce n'est pas simplement une France fictionnelle ou imaginée ou rêvée ou exacerbée. Et le recours au jeu, le recours à un pacte autobiographique très clair qui dit que nous sommes liés ici par une épreuve de sincérité, par une épreuve de transparence, et que ce que je dis est vrai, même si je ne dis pas toute la vérité, tout ce que je dis est vrai, me semblait être une manière de gagner en frontalité, de gagner en dimension politique, de gagner aussi en capacité critique, et de faire de ce récit autobiographique un espace où il n'est plus possible de recourir à la fiction pour disqualifier le vécu des populations minoritaires. Donc ce que je recherchais, c'était cet effet de transparence, cet effet de miroir qui compte en autobiographie.
Parce qu'en fait, tu avais eu le sentiment lors de tes précédents récits que les personnes les lisaient un petit peu comme quelque chose qui n'était pas réel ou qui ne pouvait pas survenir dans la réalité.
Oui, le fait de me présenter comme romancière pouvait induire que ce que je disais relevait de mon imaginaire, relevait de choses que j'avais inventées et relevait surtout d'une forme de grammaire émotionnelle qui n'avait pas cours dans le réel. Et ce sont de véritables débats que je peux entendre, sur lesquels je peux facilement dire des choses, mais rapportés aux enjeux qui sont les miens et aux nécessités qui sont les miennes, à savoir de travailler et d'écrire sur les violences, de poser cela comme un objet littéraire par excellence. Il y avait une forme de fuite, de possibilité de fuite qui pour moi était devenue très, très embarrassante, puisque la possibilité de fuite, elle entraîne des phénomènes de déni et des phénomènes de dénégation. Et ces phénomènes de déni et ces phénomènes de dénégation, ils sont déjà très fortement à l'œuvre dans la question raciale. Donc paradoxalement, j'avais le sentiment que, en demeurant dans l'espace romanesque, je redoublais moi-même la possibilité que l'on dise « le racisme, c'est ailleurs ».
Moi, ça me parle bien, ce que tu dis là, sur la question de la littérature, que ce n'est jamais juste du divertissement. Souvent, on a l'impression que quand on parle de divertissement, on dépolitise la question en se disant, bon, voilà, c'est pour s'amuser. Il n'y a jamais de plus forte idéologie que celle qui ne dit pas son nom et exactement, celle qui n'est pas nommée, en réalité, dans ce qu'on appelle ce qui est juste pour le fun. Et j'aime bien aussi la manière dont tu sépares la façon d'être écrivaine tout court et le fait d'être une femme racisée. Je trouve ça important de parler de cela, parce que on est dans une situation où on a l'impression qu'on met des adjectifs partout maintenant et que ces adjectifs-là seraient utilisés contre les personnes qui les utilisent. Donc, on a l'impression que si on dit femme racisée, hétérosexuelle, etc., on parle beaucoup d'identité et ça crispe énormément, alors que quand c'est appliqué aux personnes dominantes, on a l'impression qu'elles sont absolument choquées qu'on implique ces adjectifs. Donc il faut l'utiliser soit pour tout le monde, soit pour personne. Et il y a aussi une autre corde à ton arc quand tu travailles, c'est que tu es aussi sociologue. Et dans ce récit, tu parles de tes parents, ils sont omniprésents. Et tu choisis de les désigner par leur prénom. Ils s'appellent Ania et Mohamed. Est-ce que c'est quelque chose que tu installes cette proximité pour le lecteur, pour les lectrices? Et ça abolit cette barrière parentale qui peut exister entre le personnage et ses parents. Est-ce que c'est une manière d'être sociologue et de faire de toi et de ta famille un sujet de sociologie?
Je crois que c'était effectivement très important pour moi de me situer absolument partout et de porter des formes de revendications totales. C'est-à-dire de dire que nous sommes à la fois des images, mais nous sommes aussi des voix. Et je crois que c'est extrêmement important ici de poser la question de la représentation aussi par la question du discours politique et du discours littéraire qui est porté. Et souvent, je me suis dit, lorsque j'essayais de trouver du courage pour entamer ce projet d'écriture, qu'après tout, si j'étais un objet de discours, à la fois dans la longue histoire sociale française, mais si j'étais aussi un discours, le discours qui permet de justifier des politiques islamophobes, racistes, antiféministes, etc. Et que si, individuellement, je n'avais pas la capacité à lutter contre ces forces sociales, qui sont des forces qui nous dépassent très, très, très largement, je pouvais faire une chose qui était de me reprendre, de me ressaisir comme mon propre objet. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, m'a beaucoup interrogée et intéressée. Ce sont des processus de subjectivation qui sont déjà à l'œuvre dans d'autres disciplines que d'autres écrivains et écrivaines ont expérimenté. Et le fait de nommer ici mes parents Anya et Mohamed relève peut-être moins d'une pratique ou d'une réflexion sociologique que d'un sentiment en fait qui était ancré en moi depuis de très nombreuses années, puisque ça peut m'arriver d'appeler mes parents par leur prénom respectif. Et je crois que cela, c'est dû typiquement au fait que dans une société post-coloniale, l'expérience d'être un enfant de parents immigrés, c'est une expérience du bouleversement. Alors, pas le bouleversement ici au sens romantique du terme, mais un bouleversement objectif, c'est-à-dire que la hiérarchie familiale est bouleversée par l'ordre racial. Le racisme fait quelque chose à la famille. La famille essaie de se protéger de ce racisme-là. Et je crois que j'ai compris peut-être beaucoup plus tôt que les enfants des familles nationales, que mes parents n'étaient pas que des parents, que mon père et ma mère étaient aussi un homme qui s'appelait Mohamed, une femme qui s'appelait Anya, et que donc ils vivaient aussi d'autres expériences que l'expérience d'être mes propres parents, l'expérience d'être un travailleur, une travailleuse, l'expérience d'être sujet de formes d'oppression, de formes de domination. Et c'est extrêmement important parce que je crois que ça dit effectivement à quel point les relations filiales et affectives sont marquées par ces types de violences-là. Et évidemment, dire Anya et Mohamed, c'était aussi une manière de les replacer dans leur pleine humanité qui fait l'objet de débats au quotidien.
Ben, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, quand on est dans une structure familiale où les adultes sont affectés par des discriminations, par des oppressions notamment raciales, en fait les enfants perçoivent plus rapidement que les autres leurs parents comme des individus à part entière. Quoi.
Oui, et je crois que c'est quelque chose que j'essaie de dire. J'ai découvert rapidement, et ça a beaucoup marqué, je crois, aussi ma trajectoire par la suite, que mes parents n'étaient pas invincibles, que mes parents n'étaient pas des figures héroïques telles que la plupart des enfants peuvent se le figurer, et qu'il y a donc une forme d'inversion. J'ai beaucoup voulu protéger mes parents de choses que moi-même je ne comprenais pas, et je crois que la structure raciale a cette puissance-là de s'immiscer entre le corps des parents, le corps des enfants, et de venir perturber cet équilibre entre ce qui relève de l'espace familial privé et ce qui relève de la sphère publique et extérieure. Et c'est cet ensemble de tensions, moi, qui m'intéressait beaucoup, de dire que les familles sont des familles extrêmement fragiles, mais aussi des familles indestructibles, puisqu'elles sont liées par quelque chose de beaucoup plus fort que le simple sang transmis de génération en génération.
Tu évoques aussi, en parlant de tes parents, leur stratégie scolaire, qui a été influencée non seulement par les discours médiatiques, mais aussi par des conseils, notamment de notables locaux. Est-ce que tu peux nous raconter quel impact cela a eu sur ta scolarité ?
Oui, la question du déplacement scolaire, puisque nous vivions dans un quartier populaire, un quartier principalement de travailleuses et de travailleurs qui, au début des années 70, ont été rejoints par leur famille. Et je crois que mon déplacement, donc, à l'entrée du collège, vers ce collège catholique privé qui se situait au centre-ville et qui a impliqué le fait de prendre un bus, le fait de m'absenter des journées entières, de partir très tôt, de rentrer tard le soir. Et souvent quelque chose qui est vu très, très positivement quand j'en parlais, on me disait « mais c'est formidable, c'est très bien, bravo, vous avez pu devenir ce que vous êtes grâce à tout cela ». Oui, peut-être, mais en même temps, ce qui m'interrogeait beaucoup et ce sur quoi ma mère était particulièrement centrée, c'était effectivement de considérer qu'il n'était pas possible que je sois inscrite au collège de secteur, puisque c'était un collège de secteur dont la réputation était mauvaise. Et derrière cette idée de mauvaise réputation des collèges de secteur, qui sont pourtant des collèges qui facilitent la vie familiale au quotidien, puisque les individus sont les uns avec les autres, on peut rentrer manger à midi chez soi, le soir on est à la maison beaucoup plus tôt, on peut travailler plus, on peut s'amuser plus quand on est enfant. C'est un choix malgré tout que ma mère n'a pas souhaité faire, et je dis à un moment donné que dans les processus de justification qu'elle développait, parfois je n'entendais plus ma mère me parler, parfois c'était la télévision qui parlait, c'était la radio qui parlait à sa place, et effectivement elle était très influencée par les médecins, les différents professeurs, enseignants, banquiers, juges, etc., qui lui disaient « c'est un collège mal fréquenté ». Et derrière cette expression « mal fréquenté », puisqu'il fallait au bout des choses, c'était évidemment l'idée que c'était un mauvais collège au niveau scolaire faible et infréquentable, parce que fréquenté par des enfants noirs, arabes, roms, et plus globalement ici des minorités raciales. Et donc, ça signifiait que finalement, pour s'en sortir dans cette France du début des années 2000, il fallait absolument rejoindre le centre-ville, c'est-à-dire rejoindre le monde blanc. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui évidemment m'a beaucoup interrogée, ce qui signifie que c'est un déplacement qui a aussi des fondements racistes. C'est parce qu'il y a eu du racisme que ce déplacement a été motivé.
Je pense que c'est quelque chose aussi qui, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, parce que tu parlais début des années 2000, mais aujourd'hui, 20 ans après, c'est un discours que l'on entend souvent, de déserter l'école de secteur, même aussitôt que la primaire, hein, aujourd'hui. Tu parlais de l'Est, puisque c'est un récit qui est ancré dans l'Est, mais je pense qu'en Île-de-France et partout ailleurs en France, on peut s'y reconnaître. Il y a vraiment cette idée que... C'est une question. Comment est-ce que cet amour parental, hein, qui veut le meilleur pour ses enfants, comment il peut se défaire de ce regard social qui est porté sur les enfants dits de l'immigration, et comment on peut essayer de concilier cette volonté de... Voilà, faire des choix éducatifs, on va dire, qui leur offrent un avenir, avec le fait que parfois ça nous isole des nôtres, hein, et ça peut même nous mettre en porte-à-faux avec une certaine idée de loyauté envers les personnes qui constituent notre communauté. Et tu le dis dans ton récit.
Oui, c'est quelque chose qui comptait à mes yeux, puisque je raconte la première année à l'université, en faculté de sociologie, et je dis que c'était pour moi un moment extrêmement émouvant. Pas parce que je découvrais la sociologie ou que j'étais désormais à l'université, mais parce que c'était un moment de retrouvailles, et c'est à ce moment-là où je retrouvais ces enfants avec lesquels j'avais été scolarisée, dont j'avais été séparée, et finalement à l'université on se retrouvait tous au même point. Ce qui interroge aussi le détour, c'est aussi une question que je m'étais posée, je m'étais demandé, mais finalement puisque à 19, 20 ans, on se retrouve tous là, dans cette université, en faculté de sociologie ou d'administration économique et sociale ou autre. En quoi le détour était nécessaire, en fait? Pourquoi la ligne droite, finalement, n'avait pas été suffisante? Et quel est le sens de ces formes d'ascension en lesquelles on croit? Puisqu'au final, au sortir du lycée, j'avais malgré tout été orientée vers une faculté de sociologie, comme ses camarades qui n'avaient jamais quitté leur monde natal. Mais je crois que pour les familles, ce sont des choix qui sont évidemment des choix extrêmement complexes et qui mettent à mal des formes de rationalité qu'on juge parfois être des rationalités irrationnelles, c'est-à-dire fondées sur une forme de méconnaissance. Mais la méconnaissance, elle est là, évidemment, bien sûr qu'il y a des difficultés à saisir les bonnes informations. Et je crois que ce qui peut être important, c'est de malgré tout parvenir à tenir les différents bouts de la corde ensemble. C'est-à-dire que les déplacements sociaux, les formes de mobilité sociale, même si encore une fois on peut vraiment l'interroger dès qu'on fait entrer la question du genre et dès qu'on fait entrer la question de la race, on voit que la question de la mobilité sociale, elle est à relativiser, elle est vraiment à remettre en perspective. Mais malgré tout, ce sont effectivement des processus qui appellent des formes de conscientisation et des formes de politisation qu'il faut aussi faire advenir.
Ce que tu dis, c'est que malgré les efforts de tes parents, finalement, à la fin de ta scolarité dans le secondaire, tu as été orientée vers dans ce qu'ils essayaient peut-être d'éviter plus ou moins consciemment. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
En fait, j'ai été dans un lycée qui lui aussi était un lycée privé, qui lui aussi était un lycée plutôt privé et conservateur. Et ça fait partie de cet instant où les chemins des élèves, selon leurs capitaux sociaux, surtout les capitaux sociaux des parents, commencent à se diviser. Et comme je le dis dans l'un des chapitres, pendant toute une période, une partie de la classe, c'était plutôt les garçons d'ailleurs, avaient avec eux constamment des enveloppes brunes, qui sont les fameuses enveloppes à l'intérieur desquelles on glisse les papiers qui vont constituer le futur dossier pour les différentes classes préparatoires, pour les voyages à l'étranger, les séjours linguistiques, etc. Et une autre partie de la classe ne possédait pas ces enveloppes brunes. Elle se laissait simplement porter par le flot des informations ou de l'absence d'informations qui leur venaient ou qui ne leur venaient pas. Donc j'ai simplement, à un moment donné, été intéressée par quelque chose qui était une sorte d'imaginaire, qui était l'imaginaire de la sociologie, puisqu'on commençait à étudier cette discipline-là. Et je n'avais aucune conscience de la nécessité de préparer quoi que ce soit qui soit en lien avec un avenir professionnel ou avec des formes d'intégration sociale. Tout ça était absolument absent de mon esprit, mais omniprésent dans l'esprit d'autres élèves. Et on voit ici à quel point, effectivement, les capitaux sociaux, si on peut les rattraper par des formes de déplacement géographique, socialement, ce sont des choses qui, malgré tout, creusent toujours un écart.
Dans ce livre, tu narres aussi une histoire de violence que tu décris dans ces termes, cette expérience enfantine et primordiale de la race. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre avec deux jeunes filles blanches dans un bus et ce qu'elle a provoqué chez toi ?
Je crois que pour les personnes effectivement qui sont susceptibles d'être atteintes par des formes de racisme, d'un point de vue littéraire, il y a presque maintenant toujours une sorte de passage obligé, mais qui pour le coup n'est pas qu'un passage littéraire, mais aussi un passage politique et de subjectivation de soi. C'est d'essayer de se remémorer à quel moment dans notre trajectoire nous avons expérimenté pour la première fois ce sentiment d'altérité radicale. Et cette altérisation, aussi loin que j'essaie de m'en souvenir, elle remonte effectivement à ce premier jour de départ pour le collège dans un bus. Et j'étais avec des parents. Ces parents n'étaient pas mes parents, mais ils étaient les parents des jeunes enfants qui, eux, continuaient à être inscrits au collège de secteur. Et il y a eu une forme de rencontre. Pour moi, c'était une rencontre avec des jeunes filles, avec des très grands yeux bleus, avec une peau blanche. Et moi, j'avais été fascinée parce que je les connaissais, ces jeunes filles, au sens où elles ressemblaient trait pour trait, c'est le cas de le dire, aux jeunes actrices, aux jeunes comédiennes des séries télévisées que j'adorais regarder, Cœur brisé, le Classe mannequin, voilà, toutes ces... Donc j'avais un sentiment de familiarité avec ces jeunes filles, je croyais les connaître, je les voyais à la télévision et je me disais, tiens, maintenant elles font partie de la réalité qui m'entoure. Et cette rencontre, de leur point de vue, n'était pas une rencontre, puisqu'elles ont été beaucoup plus agressives. Et la question des cheveux, la question de la texture des cheveux, la question des cheveux qui sentent mauvais, des cheveux qui sentent l'huile, des cheveux qu'on a envie de toucher, mais qu'on a aussi envie de couper. Voilà, ça a fait un peu partie de cette sorte de confrontation qui s'est passée à ce moment-là, qu'on appellerait aujourd'hui des formes de micro-agression. Et je crois que c'est à ce moment-là, effectivement, où je me suis rendu compte, même si les termes n'étaient pas aussi clairement posés à cette époque-là, que quelque chose de l'apparence, tout d'un coup, comptait, en fait. J'étais tout d'un coup complètement dépassée par cette forme de support physique que j'étais, que j'incarnais, et sur lequel je n'avais absolument pas de pouvoir, mais les autres... eux en avaient du pouvoir sur cette apparence physique. Et je décris cela, je décris cette sorte de moment étrange où je découvre que je peux m'identifier en des personnes, mais des personnes, elles, peuvent ne pas parvenir à s'identifier à moi. Et c'est cette forme de non-réciprocité, cette forme de non-rencontre qui comptait pour moi, parce que vraiment, je pense que ça fait partie des formes de rupture autobiographique à la fois intime et infime, qui participe à construire par la suite notre regard, mais aussi notre capacité, ou pas, à nous habituer au regard des autres.
Et toi, comment tu l'as vécu, cette expérience ? Est-ce que ça t'a interrogé sur ton apparence ? Est-ce que ça a modifié ta perception de toi ? Est-ce que ça a installé un gouffre que tu n'avais pas identifié auparavant entre ces jeunes filles et toi ? T'étais adolescente, hein ?
Ça a figé une définition très stricte de ce qu'est la beauté. C'était elle, et ce n'était pas moi. Et je crois qu'effectivement, dans les parcours de féminisation, dans les parcours où on découvre petit à petit qu'il y a des normes auxquelles il va falloir se plier, ça a induit des formes d'écart, des formes de distance, et du coup, évidemment, de ma part, des recherches pour tenter cet écart, de le réduire au maximum. Donc je pense que c'était vraiment une période où l'incorporation des codes à la fois sexistes et racistes ont atteint une forme de paroxysme. Et puis par la suite, en découvrant de nouvelles personnes, en engageant aussi de nouvelles formes de socialisation, donc c'est-à-dire en faisant entrer dans mon intimité d'autres jeunes femmes, d'autres profils, et donc d'autres discours et d'autres rapports à cette question-là, les choses ont beaucoup évolué, puisqu'on a affaire à une matière extrêmement dynamique. Et je crois que c'est très important de revenir effectivement sur ces moments où quelque chose se passe, mais qui n'est jamais la fin de l'expérience.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Il y a une autre situation où ton altérité est exacerbée, et aussi cette identité qui est figée, hein, et cette fois-ci, c'est pas avec des pères, mais c'est avec le corps enseignant, qui est aussi une autre donnée de la scolarisation et qui est importante. Une professeure t'a dédicacé un livre en écrivant « À ma petite arabe qui doit connaître son histoire ». Et s'en est suivi donc une situation où tu as dû faire un exposé. Est-ce que tu peux nous rappeler cette anecdote et comment, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette assignation écrite dans un livre ?
Oui, ce sont vraiment des expériences sur lesquelles je reviens parce qu'elles me semblent absolument fondatrices et elles sont presque à chaque fois des cas d'école de ce que la domination peut avoir de plus subtil et de plus sophistiqué. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'était une enseignante de laquelle je me sentais extrêmement proche, et je crois qu'elle aussi se sentait proche de moi. Donc on était dans quelque chose de plutôt aimant, de plutôt favorable et positif. Et cette dédicace, elle a été extrêmement marquante, parce que tout d'un coup, ce n'est pas que je découvrais que j'étais arabe. Moi, je ne pense pas avoir eu de difficulté à comprendre cela. C'était une langue qu'on parlait à la maison. C'était des vacances particulières. Donc, ma difficulté, elle s'est située plutôt au fait d'y être entièrement réduite. C'est ce phénomène-là, moi, qui me paraissait plus complexe. Et c'est vraiment le principe même de l'assignation. C'est-à-dire ce phénomène un peu en entonnoir qui nie et qui vous refuse l'ensemble de votre complexité et qui vous attache comme on attache une pierre avec une corde et on jette ça à la mer. Tout d'un coup, vous êtes lié, vous êtes alourdi, vous êtes noyé par quelque chose qui n'est pas en totalité ce que vous êtes. Ça peut être une expérience. Moi, je n'avais pas de difficulté, encore une fois, à me vivre et à me percevoir comme une fillette, comme une fille, comme une jeune fille arabe, mais c'était vraiment cette fermeture qui me paraissait extrêmement, extrêmement violente. Et puis, le ma petit arabe aussi, qui était extrêmement violent, parce qu'un élément de possessivité aussi fort que celui-là. Moi, j'étais dans un lycée très conservateur, alors que j'estimais que j'étais extrêmement libre. Et c'était complexe de ce point de vue-là.
Et ce que tu as demandé l'enseignante, c'est qu'elle t'a fait, enfin, tu as lu le texte, et ensuite elle t'a demandé de le restituer en fait, devant une classe à elle, une autre classe.
Oui, c'est ça, de restituer à une autre classe. Et je crois que ça a été vraiment, c'était une expérience qui faisait tout entière corps avec ce que je pouvais être. C'est-à-dire comment, à un moment donné, dans des interactions sociales où apparemment tout va bien, tout d'un coup, un regard peut surgir et un regard peut vous chosifier, peut vous statufier, peut vous objectiver. Et quand effectivement elle m'a demandé de présenter ce livre à l'oral devant ses élèves, moi je me rappelle très fortement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le rapport majoritaire-minoritaire qui s'est créé. Et surtout, il y a eu ces différentes injonctions qui sont progressivement apparues de performer ma culture, entre guillemets, de performer, de jouer, de mettre en scène ce qu'elle estimait que j'étais. Et je crois que ça, c'est quelque chose de difficile, parce que évidemment, ce qu'elle me demandait, c'était d'habiter ma différence, de la montrer, d'en être heureuse. Mais cette différence, c'est une différence absolument inhabitable, puisqu'elle me coupait de tous mes autres camarades qui, eux, étaient dans une forme de normalité, c'est-à-dire de norme, et moi, j'apparaissais comme une forme d'exception. Et on sait à quel point les phénomènes d'exceptionnalisation des individus issus des groupes minoritaires sont des processus de déni de ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils peuvent être si la liberté leur est accordée.
Il y a un autre incident aussi que tu racontes qui m'a énormément touchée. C'est ce moment où l'enseignante fouille ta trousse. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, le premier jour de ses départs au collège, ma mère était évidemment extrêmement inquiète de me confier à d'autres adultes, mais c'est quelque chose qu'elle avait décidé de faire et elle est allée au bout de la démarche. Et ma mère est une femme musulmane, extrêmement croyante et qui compte toujours, comme je le dis, sur son dans le récit, qui compte toujours sur son propre protecteur pour protéger les siens et sa fille en particulier. Et ce jour-là, j'avais simplement remarqué qu'elle avait effectivement glissé quelque chose dans ma trousse en me disant « n'y touche pas ». Voilà, c'est là et tu le laisses là. Et bon, moi, je me disais, c'est un cadeau, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ce sont des boucles d'oreilles, peut-être que c'est une pierre précieuse, je ne sais pas. J'étais très... Et quelques temps plus tard, effectivement, avec un profil d'élève un peu insolente, un peu bavarde, un peu perturbatrice, j'avais été remarquée pendant ce cours. Et l'enseignant, comme les enseignants craignent toujours que les élèves pensent d'eux des choses négatives, il y avait une sorte de tension qui s'est installée. Et c'est ma trousse qui a été fouillée pour être sûr et certain que les élèves n'avaient pas raconté et écrit des choses négatives sur ce professeur. Vous savez, sur les fameux petits papiers qu'on se fait passer en classe de main en main. Et il a découvert effectivement cette chose, ce cadeau. Et moi, j'étais doublement gênée et peinée, puisque je me disais, il a découvert quelque chose, mais moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur de ce petit paquet. Et il l'a ouvert, et en fait, c'était une sorte de Coran miniature. Il existe une multiplicité de formats de Coran. C'est un marché en plein boom, en pleine expansion. Et là, c'est un Coran miniature, c'est-à-dire qui tenait véritablement dans la paume de la main. Et ça a été une expérience troublante. Je crois que j'étais extrêmement touchée parce que je pensais à ma mère et je me disais, elle a pensé à moi, elle a fait tout ça pour moi, c'est absolument merveilleux. Elle m'aime, je l'aime. Il y avait vraiment cette sorte d'amour filial qui renaissait. Et j'étais aussi absolument triste d'avoir, par une forme d'insolence, gâché son cadeau, en fait. J'avais fait en sorte que ce cadeau ne soit plus un cadeau. Il avait été découvert. Il avait en plus été découvert par un professeur qui était très, très inquiet de découvrir quelque chose de cet ordre-là et qui ne comprenait pas ce que c'était. Et le petit Coran miniature a fini sa triste vie, sa petite vie, dans une forme de corbeille, le genre de corbeille, vous savez, dans les tiroirs où on range les craies, les ciseaux, où on confisque toutes ces choses aux élèves. Et cette confiscation, évidemment, pour moi, elle était marquante parce que ça me culpabilisait beaucoup par rapport à ma propre mère. Et en même temps, j'étais très gênée de ce professeur qui, tout d'un coup, me disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous faites avec ça ?»
Dans tes inspirations, il y a un livre que tu cites dans ton ouvrage, qui est celui du sociologue Abdelmalek Sayed, La double absence, qui a été un révélateur pour toi. Tu dis qu'il t'a, je te cite, aidé à tuer la honte. Et tu utilises aussi une autre formule qui est celle de venger ta race, qui rappelle ce que dit Annie Ernaux dans son travail. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ces auteurs, ces auteuristes ont résonné en toi?
Oui, la découverte d'Abdelmalek Sayed, elle s'est faite de manière assez fortuite et d'une manière assez ordinaire. Le professeur de sociologie d'SES, on disait à l'époque, nous avait distribué des textes, et parmi ces textes-là, il figurait quelques passages de ce livre important, La double absence d'Abdelmalek Sayed. Et je crois que je n'avais même pas lu véritablement les chapitres, je m'arrêtais simplement aux titres. Et les titres étaient pour moi déjà extrêmement parlants. Ça parlait du poids des mots, ça parlait de l'absence, ça parlait de la question du corps. Et tous ces mots-là, vraiment, je m'en souviens comme formant une sorte de nuée de lucioles, et je me disais, là, en fait, il y a de la lumière, là, il y a peut-être quelque chose à suivre. Donc, ça veut dire que j'avais un rapport au savoir et à la lecture qui était un rapport assez affectif, puisque complètement dénué de stratégie quant à des formes d'ascension sociale ou de placement dans les bons univers sociaux. Donc j'avais une sorte de rapport quasi fusionnel avec ce que je pouvais lire, Et cela d'autant plus que j'estimais que ce que je lisais n'avait pas d'autre importance que l'importance que moi je lui accordais. Et la découverte d'Abdelmalek Sayed, comme je le dis, oui, ça a été une découverte fondamentale. Il s'appelait Abdelmalek. Ça disait déjà quelque chose d'une forme de connivence, d'une forme de camaraderie que moi j'aimais beaucoup à cette époque-là. C'était une forme de famille que je recomposais comme je le pouvais. Et surtout, bien sûr, sur le plan sociologique et sur le plan politique, ça m'a par la suite aidé à comprendre ce qui nous était arrivé, comme je le dis, en référence aux premières pages du récit, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement, et un déplacement qui n'est pas qu'un déplacement économique, comme on a tendance à vouloir le dire, mais un déplacement qui véritablement déplaçait le lieu de l'existence et posait la question de l'espace où l'on habite et du caractère illégitime et surtout légitime de cette forme d'habitation. Et ça, c'était quelque chose pour moi de révolutionnaire.
Alors, en dehors de ce récit, tu t'exprimes aussi dans la sphère publique, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers des articles. En août 2020, tu as écrit pour la revue Ballast un article qui s'appelle « Marlène Schiappa, le fémonationalisme et nous ». Je te propose d'écouter un son avant de nous en dire davantage.
Notre objectif, c'est d'expulser en priorité et d'expulser fermement tous ceux qui ont été condamnés. Moi, c'est quelque chose que j'avais obtenu en 2018 auprès d'Edouard Philippe dans un comité
interministériel. Condamné ou en situation irrégulière sur le territoire, c'est
alors,
pas la même chose.
Alors, hein. Moi, je vous donne deux exemples et je vous partage ma priorité. Notamment, par exemple, les personnes qui sont radicalisées et les personnes qui ont été reconnues coupables de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. C'est une décision qui avait été prise sous Edouard Philippe, que j'avais moi-même proposée et portée dans ce comité interministériel. Et l'idée, c'est qu'on fasse en sorte, eh bien, d'être concret. Je peux dire que 174 personnes se sont vues, par exemple, retirer leur protection et donc leur statut de réfugiés dans les 6 derniers mois pour que leur expulsion soit permise, soit parce qu'ils étaient radicalisés, soit parce qu'ils étaient coupables de violences conjugales.
Donc c'est Marlène Schiappa qui s'est exprimée sur CNews Europe 1 le 1er juin 2021. Est-ce que tu pourrais nous donner en premier lieu ta définition du fémonationalisme et quel rôle, et nous dire quel rôle joue Marlène Schiappa et joue le gouvernement justement dans la définition politique de ce mouvement?
Oui, le fémonationalisme, c'est un concept qui a été développé ces dernières années par une chercheure qui s'appelle Sarah Faris. Et c'est un concept qui est effectivement extrêmement utile puisqu'il vient éclairer les manières dont le féminisme peut être mis au service des idéologies racistes. Donc c'est l'idée d'un détournement de la question des droits des femmes à des fins anti-démocratique et à des fins d'exclusion de l'altérité raciale.
Et du coup, tu as écrit sur Marlène Schiappa et sur cette manière dont justement on utilisait la volonté de protéger certaines femmes pour désigner en fait comme étant particulièrement sexiste une catégorie d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes en fait dans les prises de position du gouvernement ?
Oui, c'est quelque chose qui traverse la France de manière régulière. On pourrait remonter d'ailleurs à plus loin dans le temps pour observer ce type de phénomène. Mais ce sont aussi des phénomènes qui ont une assise quasi européenne. Et je crois que ce à quoi il faut bien être sensible, c'est l'idée qu'il la question de la sexualité, la question des sexualités est aussi traversée par la question des nationalismes. Et qu'à un moment donné, pour définir ce qu'est une nation, et surtout pour viser à défendre une certaine forme d'identité nationale, l'un des critères, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui va être retenu, c'est le type de rapport que les individus entretiennent à la question du corps, ce qui permet d'induire par la suite l'idée que certains groupes sociaux inscrits dans certaines cultures et inscrits en particulier dans certains territoires religieux entretiennent des rapports à la sexualité et au corps qui prouvent soit leur état d'avancement, c'est ce qu'on appelle les démocraties sexuelles, et la France croit être une démocratie sexuelle, ou alors des formes d'arriération, c'est-à-dire que ces sociétés et ces individus ne doivent absolument pas entrer en contact durable avec les sociétés modernes et occidentalisées, parce qu'elles portent le risque de formes de dégénérescence du point de vue de l'égalité homme-femme. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent, et qu'on qu'on remarque aussi très fortement dans les discours qui visent à défendre la laïcité, par exemple, puisque la laïcité est aujourd'hui, même si ça fait un certain temps que c'est le cas, mais c'est aujourd'hui typiquement un discours sur l'égalité homme-femme. Et comme on présume que certaines sociétés ou certains groupes ne respectent pas l'égalité homme-femme, après tout, c'est justifié, c'est légitime de les exclure, de les déshumaniser, de leur retirer des titres de séjour, d'aller même, pourquoi pas, leur faire la guerre directement sur place.
Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Marlène Schiappa, c'est que, en fait, elle décrit deux types de délits qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Donc, soit la radicalisation, et donc là, on a tous les préjugés islamophobes, soit le fait d'être violent vis-à-vis des femmes, alors qu'en fait, il est possible d'être à l'origine de nombreux délits et de nombreux crimes. Donc, le choix particulier de ces deux délits-là comme étant particulièrement le fait de ces hommes-là qu'on imagine musulmans, parce qu'en fait, il y a plein de réfugiés qui ne sont pas musulmans. Enfin, donc. Pourquoi, enfin, et quand on parle radicalisation, on n'a plus besoin de préciser islamiste. Et cette violence faite aux femmes, enfin, elle est aussi le fait de personnes qui ne sont pas en situation de fragilité administrative. Donc, comment ces personnes-là sont sanctionnées? Et il y a tout cet implicite-là aussi qui désigne un type d'homme, effectivement, qui appartiendrait à cette société que tu désignes comme étant perçu comme arriéré.
La relation, elle est vraiment extrêmement forte. C'est-à-dire que la manière dont on va décider de parler et dont on va décider de traiter les hommes des groupes racisés a évidemment pour enjeu de surélever constamment le comportement égalitaire des hommes qui appartiennent au groupe blanc. Ce qui fait qu'on observe des phénomènes qui obéissent à une certaine forme de logique de vase communicant, puisque médiatiquement et politiquement, on va insister et on va survisibiliser les violences sexistes et sexuelles qui existent et qui sont produites par des hommes des groupes racisés, ce qui va, en contrepartie, en contrepoint, venir invisibiliser les violences sexistes et sexuelles qui sont commises par les hommes des groupes blancs et plutôt en contexte bourgeois. Ce qui a des impacts aussi sur le vécu de ces femmes-là, puisque ça veut dire qu'on survisibilise les violences sexistes et sexuelles qui surviennent du côté des femmes issues des groupes dominés, et que les violences sexistes et sexuelles qui surviennent au sein des groupes dominants, au sein de la bourgeoisie, au sein de l'aristocratie, etc., sont plutôt des cas qu'on va tenter de cacher, d'amoindrir, et sur lesquels on va tenter de ne pas trop apporter l'attention. Donc, à la fois le sexisme pratiqué et le sexisme vécu sont complètement traversés par la question raciale et posent, du coup, aussi de manière extrêmement forte, la question de l'efficacité du féminisme blanc et, en contrepoint, la question de la nécessité d'un féminisme intersectionnel.
Et c'est vraiment une musique assez récurrente, hein, cette utilisation d'une définition non seulement réductrice de la notion d'égalité homme-femme, mais aussi l'utiliser contre la justice sociale pour d'autres groupes. Hein. Donc, on a un autre exemple de ce dévoiement de notions. On va écouter ensemble.
Il y a des silences qui sont assourdissants, Romain, comme le rappelle Rachel Kahn dans une très belle tribune publiée au JDD. On n'entend plus les néo-féministes. Peut-être sont-elles trop occupées à se battre contre l'écriture inclusive ou à dénoncer le mâle blanc occidental cisgenre. Or, au nom d'un antiracisme dévoyé, les néo-féministes s'interdisent toute critique de l'islam et même de l'islamisme. Elles se taisent au sujet des femmes afghanes, mais sont restées également muettes après les viols de Cologne, face au harcèlement de Mila et au sujet de la burqa ou des cafés interdits aux femmes dans certaines villes de banlieue. À leurs yeux, le patriarcat et même la déshumanisation de la femme, pour le cas de l'Afghanistan, reste acceptable dès lors qu'il est musulman ou qu'il vient d'un pays non occidental. Dans leur vision manichéenne, il n'existe qu'un seul coupable, qu'un seul bouc émissaire, le mâle blanc occidental, tandis qu'à leurs yeux, le musulman, entre guillemets, ou le migrant est une victime par essence, ce qui excuserait ses éventuels crimes. C'est un fait néo-féministe qui se présente comme antiraciste. En réalité, il est anti-universaliste et ethno-différentialiste. Ce n'est rien d'autre qu'un racisme inversé.
Alors, fatiguée, voilà. Voilà, c'est la question. Voilà, c'était sur la matinale de CNews du 24 août dernier. Donc il y a plein de choses, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour déballer ce que vient de dire ce chroniqueur. Donc évidemment, il faudrait aussi dire que déjà, on ne se bat pas contre l'écriture, enfin, je ne connais pas de féministes qui se battent contre l'écriture inclusive. Donc il y a énormément de reproches qui sont totalement infondés. Donc cette utilisation de termes qu'on ne maîtrise pas, comme voilà, écriture inclusive ou hétérocentré, pour tout ça, pour parler de racisme, disons, inversé, donc racisme anti-blanc, pour ceux qui connaissent, pour la traduction française de reverse racism en anglais, voilà, l'utilisation de ces notions pour faire avancer des idées très conservatrices et très d'extrême droite. Ça, c'est tout le temps, en fait.
Oui, moi, il y a quelque chose qui me fait à chaque fois sourire quand j'entends ce type de prise de parole. C'est que je crois que ça dit aussi quelque chose d'une victoire. Même si c'est une victoire qui n'en a pas forcément l'apparence. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire cette personne-là est sur notre terrain. Elle essaye d'utiliser nos propres termes, même si elle essaie de les détourner de leur sens originel. Et c'est aussi une victoire, on pourrait dire, idéologique et intellectuelle, que de contraindre l'adversaire politique à vous contredire en utilisant vos propres termes et sur votre propre terrain. Donc je trouve qu'il y a... C'est de là d'ailleurs d'où vient le ridicule de ce qu'on a pu entendre, c'est que les choses ne sont pas du tout maîtrisées, mais il aspire malgré tout à les maîtriser d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une micro-victoire, mais aucune... Toutes les victoires comptent. Mais plus sérieusement encore, le fait de vouloir jeter l'opprobre sur les féministes intersectionnelles, on pourrait dire, féministes antiracistes, de cette manière-là, en les faisant passer et pour des antiféministes et pour des compagnonnes de route du patriarcat et des idéologies violentes, c'est quelque chose de l'ordre d'un renversement typique. C'est ce qu'on observe constamment dans l'idée de disqualifier celles qui, d'ailleurs, ne sont pas si présentes que ça dans l'espace public. Donc le fait de dire en plus « on ne les entend pas », de toute façon, vous ne les entendez pas de manière assez générale, en fait. Donc, le fait que même nos voix ne parviennent pas jusqu'à vous sur ces questions-là, c'est pas non plus extrêmement choquant. Donc, je crois que ici, on voit à quel point le fait de devoir tenir les deux fronts, et celui du féminisme et celui de l'antiracisme, est le lieu exact, quasi sismique, on pourrait dire, sur lesquels il faut se situer pour tenir bon et faire face à ces attaques extrêmement honteuses pour ceux qui les tiennent.
Puisque dans sa chronique, il passe plus de temps, en fait, à parler de féministes qui, à ses yeux, ne s'expriment pas que des personnes, en fait, qui sont victimes des talibans. C'est-à-dire que au lieu de citer des personnes qui sont en révolte, en résistance par rapport à l'oppression des talibans, en fait, il va chercher à expliquer qu'en gros, c'est du racisme anti-blanc. Donc c'est lui la victime, en fait, indirecte des talibans et pas les femmes afghanes. C'est complètement... Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'empathie pour le mâle. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit une impression, mais pour le mâle blanc occidental cisgenre, qui c'était deux fois plus, en fait, que les personnes dont on est censé être solidaire.
Oui, et puis ça dit bien aussi à quel point tout ce qu'il se passe à l'échelle internationale, au regard de la médiocrité du journalisme ambiant français, est sans cesse ramené à des problématiques franco-françaises où il est question, pour aller extrêmement vite, de disqualifier les personnes minoritaires qui s'expriment et qui tentent de vivre intellectuellement et de contribuer au débat public. Donc il y a un phénomène en plus d'aspiration de ce qui se passe à l'échelle internationale pour des conflits de politique intérieure qui sont très faibles et qui disent à quel point c'est vraiment là qu'il faut être. Paradoxalement, si on essaye de continuer d'être un peu positif ou optimiste, moi je trouve qu'à chaque fois ça vient rejustifier nos positions, nos prises de parole, nos travaux respectifs, puisque c'est à cet endroit-là même qu'ils décident, eux, de réagir.
Mais on va rester sur cette note positive et optimiste et de victoire pour terminer ce numéro de Kif Taras avec Kaoutar Archi. Tu es chercheur en sociologie, écrivaine, et tu as écrit ce récit très puissant qu'on recommande, Comme nous existons, paru aux éditions Actes Sud. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire. Je suis sûre que ça va vous donner plein de réactions, plein d'opinions. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras, @kiftaras sur Twitter, sur Facebook et Instagram.
Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. Merci à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokaya.
Merci Kaoutar.
À très bientôt, merci.